Ce matin, on a vu avec Denis le shalom. Le shalom, le Shabbat de l'Ancien Testament, qui était une invitation à donner à Dieu ce qui lui appartient. Libérer son peuple, libérer les esclaves, donner le repos même aux animaux, et nous-mêmes prendre ce temps avec Dieu en intimité avec lui. Et Jésus a incarné ce geste-là en libérant les captifs, en guérissant, en aimant. Et le Seigneur Jésus a dit que tout était accompli. Il avait lui-même incarné ce sabbat dans lequel il nous invite. En parlant entre nous, on était Denis, Ginette, François, mon mari. On parlait de ce qui nous empêchait de rentrer dans le repos. Et pour moi, une chose qui m'empêche de rentrer dans le repos, c'est la peur. La peur qui crée toutes sortes de choses, la peur qui crée des inquiétudes, qui crée des angoisses, de l'anxiété. Et je suis une personne qui lutte avec ça. OK? Je viens inquiète assez vite. Alors, mon sabbat, il doit être aussi dans mon esprit. C'est une chose d'avoir une journée ou d'un temps. Mais si le temps où on est en arrêt, notre cœur est inquiet et ça tourne tout le temps, c'est pas le but du sabbat. Alors, on va voir aujourd'hui, ce soir, c'est-à-dire des exemples. Des exemples de personnes qui ont vécu la peur et des exemples de personnes qui ont vaincu la peur. Pourquoi ils ont et comment ils ont vaincu la peur. Et on va visiter après nos propres peurs. Et ça va nous amener dans un temps de méditation tous ensemble. Alors, l'origine de la vie, elle s'inscrit dans une relation. Denis nous a mis bien au fait de ça, que c'est cette relation avec Dieu. Et j'aimerais vous inviter dans Genèse, attendez un petit peu, oui, où Dieu a dit « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image et qu'ils nous ressemblent ». J'aime bien le pluriel de « faisons ». Il n'a pas dit « je vais faire », c'est « faisons ». Père, Fils, Saint-Esprit, ils travaillaient ensemble. Faisons l'homme à notre image, ceux qui nous ressemblent. Et ma compréhension de ça, c'est qu'on est à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on a un esprit, un cœur, des émotions, une intelligence. Comme on voit dans les Écritures, on voit toutes ces choses-là de la part du Seigneur. Mais pour moi, la ressemblance, c'est quelque chose de spécial. Je pense qu'on a été créé pour ressembler à Dieu. Et que ressembler à Dieu, c'est un processus. Et que Jésus l'a incarné comme on l'a vu avec Denis. Être à la ressemblance. Donc, ça, il faut que j'ouvre ça, si je veux que ça aille. Et l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Alors, ma version, c'est « semeur ». OK? « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Alors, Dieu, dès le départ, c'est un être relationnel. Il était relationnel Père, Fils, Saint-Esprit, puis il invite l'homme, la femme, à être ensemble, à être relationnel, et il lui donne une partenaire. Et après ça, il la façonne, et Dieu est intéressé à ce qui se passe. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a confié la gestion de cette terre-là. Il est le propriétaire, mais on est les gestionnaires. Et dans cette gestion-là, je trouve ça vraiment beau que Dieu s'intéressait et il disait, je veux aller voir comment il va nommer les animaux. Il a donné le mandat de nommer les animaux, mais ça l'intéressait. Il voulait savoir, il y avait une relation. Il s'est dit qu'au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel qui parcourait le jardin. Ma compréhension de ça, là, c'était que le Seigneur descendait dans le jardin après le souper, puis il allait prendre le café avec Adam et Ève, puis il leur disait « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Puis lui, comment tu l'as appelé? Puis lui, comment tu l'as appelé? Puis qu'est-ce que tu vas faire avec lui? » Moi, je crois qu'il y avait une vraie relation. Une vraie relation. Et c'est dans ça que Dieu nous invite encore aujourd'hui, avoir une vraie relation. Et cette relation-là, elle était souhaitée à son image, à sa ressemblance. Il y avait une intimité, une communication, une communion avec Dieu. Mais voilà, il y a un ennemi qui est arrivé. Et cet ennemi, il a mis le doute. Il a dit, vraiment, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Alors là, je veux juste vous souligner que une des choses que l'ennemi fait régulièrement avec nous, c'est est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Et il y a une grosse différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Ce n'est pas la même chose. Le diable croit en Dieu. Il sait qu'il existe. Mais croire Dieu, c'est croire ce qu'il dit. Et là, la ruse, la pogne, OK, c'est « C'est-tu vraiment ça qu'il a dit? » Alors, Ève va répondre « Oh, ben, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu. » Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon on va mourir. Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, voyons donc, vous ne mourrez pas. Seulement, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Il y a plusieurs choses que l'ennemi a fait à ce moment-là. Je pense que la première chose qu'il propose à Adam et Ève, c'est un raccourci pour ressembler à Dieu. Adam et Ève avaient été créés pour ressembler à Dieu. Il propose un raccourci. Si tu manges ça, là, tu n'auras pas besoin de passer du temps, prendre le café, être en intimité, jaser. Tu vas ressembler à Dieu. C'est intéressant des fois, hein? Quand on a un raccourci, on veut le prendre. Hein? Sauf que le Seigneur avait dit non, tu n'as pas de raccourci, je veux une relation avec toi. Comme une fréquentation, je veux qu'on prenne notre temps. Je veux que tu me connaisses parce que je veux que tu me ressembles. Et il y a donc cette proposition-là, il y a le doute aussi fondé sur la parole, ok, l'avertissement. C'est un conseil que Dieu a donné. La parole de Dieu, on l'a vu, Denis l'a dit ce matin, la parole de Dieu, c'est un conseil pour nous. OK? C'est une vitamine pour notre âme. Alors, il dit, il nous détourne du conseil de Dieu, de la parole de Dieu. Il nous appelle à la convoitise, y ressembler vite, pas faire d'efforts. Et finalement, c'est un échec du but visé. Et on s'éloigne du conseil de Dieu, de sa parole. Alors, aussitôt, ils virent qu'il, c'est-à-dire que au moment où la brise du soir, alors là, le Seigneur revient, et l'homme et la femme vont aller se cacher. C'est quand qu'on se cache? Quand on a fait une bêtise? Quand on a peur? Quand on a honte? Oui, c'est là qu'on se cache. Alors, la connaissance du bien et du mal, ils l'ont eue instantanément. Ils ont tout de suite su. La parole s'est accomplie tout de suite. Ils ont tout de suite su que c'était mal ce qu'ils avaient fait. Et là, l'Éternel appelle l'homme et lui demande une question extraordinaire. Où es-tu? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Je te cherche. T'es où? T'es pas au rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Je pense pas que c'est un « où es-tu? » Où est-ce que t'es là? Je ne pense pas que c'est ce « où es-tu là ». C'est le « où es-tu plein d'amour » du Créateur qui cherche sa créature. « Où es-tu? » Et là, l'homme répond, « J'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur. J'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Et dans les premiers chapitres des Écritures, on retrouve la peur. Et la peur, elle est là depuis longtemps. Et la peur, elle a contaminé notre relation avec Dieu. Et c'est aussi parce qu'on a une relation contaminée qu'on a peur. OK? C'est un cercle vicieux, là, cette histoire-là. Dans les Écritures, il y a multiples exemples de personnes, d'hommes, de femmes de Dieu qui ont eu peur, mais qui l'ont dealé, comme on dit, ils ont fait face différemment. Alors, une des personnes, c'est Sarah. Je donne juste trois exemples. Sarah, qui a menti, était saisie de crainte. Elle était saisie de crainte parce que l'ange l'a visitée, puis elle a entendu qu'elle était pour avoir un enfant. Puis là, elle s'est mise à rire. Fait que le serviteur de Dieu a dit, elle a ri? Non. Elle était gênée de dire qu'elle avait ri. Elle avait peur du jugement. La deuxième personne, OK, il y en a d'autres entre, c'est Isaac. OK? Isaac, son épouse, elle était très belle. Et quand une épouse, une femme était très belle, si elle était mariée, là où ils étaient, ils pouvaient tuer l'époux pour prendre la femme. Mais si c'était son frère, ils honoraient le frère. Il y a toutes sortes de cultures hein, dans la vie. Toutes sortes de façons de voir la vie. Alors, Isaac, il a eu peur. Il savait qu'il était pour se faire tuer. Alors, il a menti, il a dit que c'était sa sœur. Et la motivation de son mensonge, c'est la peur. OK? Il dit, je me disais que je vais mourir à cause d'elle. Donc, il a menti parce qu'il avait peur. Ici, on voit Élie. Élie, c'est un prophète extraordinaire. Et ce passage-ci arrive, Élie a pris peur et s'est enfui pour sauver sa vie. Savez-vous ce qu'il venait de faire, Élie? Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent du contexte. Faire descendre le feu du ciel. Et il avait tué 450 prophètes. Une petite journée. 450 prophètes. Et là, imagine-toi qu'il prend peur à cause d'une femme. Une femme qui dit, je vais avoir ta peau. Il prend peur, c'est la panique. Alors, il part, il se sauve, il s'en va à l'ombre d'un arbre, un genêt, et dit là, c'est trop, c'en est trop. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Plus capable, le gars. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Dépression. Soudain, un ange lui toucha. Alors Dieu y amène son secours. Lève-toi et mange. Il regarda, aperçut près de sa tête des gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées, une cruche pleine d'eau. Il en mangea et but, se recoucha. Ça, on appelle ça un burn-out. Une dépression. OK? Et c'est l'homme de Dieu. OK? Et ce qui l'a mené là, c'est sûr, c'est un grand effort. Il a tué 450 gars le jour, là. OK? Sauf que, pire que ça, c'est la peur. La peur qui dit, ça se peut pas, j'ai fait tout ça, puis je suis pas reconnue, je suis pas élevée, il y a encore quelqu'un qui en veut à ma vie, je suis plus capable. OK? Des fois, la fatigue, ça fait ça. Quand on a beaucoup travaillé, une petite chose, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. On a peur, puis on va se coucher en dessous des couvertes. OK? On n'est plus capable. Alors, ça, ce sont quelques exemples. Et partout dans les Écritures, il y a des exemples de personnes qui ont peur. La peur, c'est un sentiment très puissant. J'ai lu en 2015, en novembre 2015, aux États-Unis, une jeune fille est avec son père dans le garage et le gros camion a tombé sur... Le papa est en dessous, il travaillait le camion, puis le camion est tombé. Et la fille, pour sauver son papa, elle a levé ce gros camion-là, OK? Puis le papa, il a pu sortir. Alors, la peur, ça donne de l'énergie aussi, OK? Il y a une peur positive, peur de... si tu vois un aliment qui a l'air contaminé, tu ne veux pas le manger, tu as peur de t'empoisonner. Ou si tu vois quelque chose qui a l'air chaud... Tu y vas pas, t'as peur. Donc, il y a une peur qui est positive, OK, qui sert à quelque chose. Elle sert à te sauver, OK? Mais en général, la peur qu'on vit tous les jours, c'est une peur qui effraie, c'est une peur qui paralyse, c'est une peur qui donne des angoisses, c'est une peur qui donne de l'anxiété, c'est une peur qui enlève le repos, le Shabbat, ou le shalom, la paix. La peur nous maintient sur le qui-vive. La peur brûle notre énergie. La peur nous use. Elle donne des symptômes physiques tels que la nausée, des maux de tête, des maux de dos, Et je ne me lancerai pas dans toutes les explications médicales et scientifiques, mais je pense que chacun de vous sait ça, que la peur ou l'anxiété, ça peut créer vraiment des problèmes de santé. OK? Si vous êtes inquiet, vous êtes plus fatigué. Et si vous êtes plus fatigué, vous êtes plus vulnérable à être inquiet. Alors, on tourne là. OK? On s'en va comme ça. Adam a eu peur. Ésaïe a eu peur aussi quand il a vu l'ange. Pierre a eu peur quand il a vu qu'il avait menti. Mais un exemple marquant des Écritures que je veux regarder avec vous ce soir, c'est dans Nombre 13. C'est pour des personnes qui ont eu la même tâche, mais qui l'ont abordée de deux façons complètement différentes. Alors, ce qu'on va aller voir dans Nombre 13, alors ça, je vous fais l'introduction, c'est parce que Moïse était un Gébéusien. Je m'explique. Quand il est rentré en Canaan, il est allé avec la méthode inductive. Qui est là? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Pourquoi ils font? Puis ça va être quoi les conséquences si on se présente là? Alors, regarde, il dit, Moïse envoya donc pour reconnaître, c'est quand ils sont allés voir, ils venaient de sortir d'Égypte, et là, ils sont pour entrer en Canaan. C'était le programme de Dieu, là, OK? Il avait appelé Moïse pour ça, là. Tout ce qui s'est passé, c'était pour libérer le peuple. C'était le programme du Seigneur. Alors, il dit, passez par le Négev, gagnez la région montagneuse, examinez le pays, voyez comment il se présente. Quel peuple habite? Qui? Observez s'il est fort ou faible. Quoi? Dans le nombreux pays, voyez quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées, la ville est-elle fertile ou pauvre, la terre, c'est-à-dire, y trouve-t-on des arbres ou non? Ayez du courage et rapportez des fruits. C'était en effet l'époque des premiers raisins. Alors, je veux juste dire que l'observation des faits, c'est pas nouveau. Si on observe les faits, on s'instruit. De la même façon que si on prend du temps pour s'arrêter au sabbat, pour observer d'où on vient, où on est et où on s'en va, on tire des leçons. Voici ce qui va se passer. Alors, le rapport qu'ils firent, et c'était tous des chefs, OK? C'était des chefs de clan. C'était des élites qui sont allées, des hommes forts, vaillants, des courageux. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Ah oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait, de miel, et en voici les fruits. Alors là, c'était une grosse grappe, il était à deux pour la porter. Seulement, ça veut dire quoi seulement? Mais, par contre, cependant, et toutefois, Le peuple qui l'habite est comment fort? Et les villes sont comment? Immenses. Et on a même vu des descendants de qui? C'était qui, lui? Qui? Un géant. Alors, d'habitude, on est les enfants de nos parents, donc il va y avoir des géants là, OK? Et là, il nomme le peuple. Les Amalécites occupent la région, le Négev, les Hittites, les Yéboussiens, pour moi, c'était les ancêtres des Gébéusiens, les Amoréens, ils tiennent la montagne, et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la ville du Jourdain. Est-ce que vous avez une idée de la géographie de ce territoire des peuples qu'ils nomment? Oui? Plus ou moins? Oui.
Ce qui serait la région de Gaza, qui peut être le pays de Canaan, pour le Niger, ça serait plus au nord d'Israël, pour le moins. C'est disons des micro-régions.
C'est des micro-régions, mais ça s'étend du Jourdain jusqu'à la Méditerranée. C'est très grand. C'est très grand, ce territoire-là. OK? C'est un gros programme. C'est un gros programme. Alors, eux, leur impression, c'est que c'est un gros contrat. C'est une grosse bouchée, là, cette histoire-là. OK? Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des villes fortifiées. Il y a des gens qui sont nombreux. Et il y a des géants. Et le territoire est vaste à couvrir. Il y a plusieurs défis qui sont là. Mais Caleb, lui, essaya de faire taire le peuple parce que le peuple commence tout de suite à s'en prendre à Moïse. Il n'y a même pas de discussion, là. Y a-t-il une stratégie? Comment on pourrait faire? Qu'est-ce que vous pensez que? Puis si on essayait... Non, non, il n'y a pas de stratégie. Tout de suite, c'est le cœur là, qui est affecté. Et ils se demandent, ils s'en prennent à Moïse. Excusez, je n'ai pas tellement le contrôle de cette chose, je ne suis pas bonne. Vous savez, à mon travail, j'ai un ordinateur, il faut que je vous dise ça, OK? Parenthèse. Souvent, je lève la main, je dis, ah, j'ai un problème avec mon ordinateur. Tout le monde part à rire, puis ils disent, Hélène, le problème, il est à 18 pouces de l'écran. Alors, notre Caleb, il dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Alors, Caleb, lui, il croit que si Dieu les a conduits là, ils peuvent y aller, ils peuvent y aller. Mais les hommes qui l'avaient accompagné, et là, on va voir la vision de la peur. Qu'est-ce que ça fait? Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est... OK. Tout à l'heure, ils étaient comment? Terriblement forts. Mais là, ils sont rendus plus forts. Ils sont plus forts. Puis, ils se mirent à décrier le pays. Au début, c'est quoi qu'ils avaient dit? Il est beau! C'est un bon pays. OK? Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consomme ses habitants. Avez-vous déjà vu ça, vous autres? Une terre qui mange le monde. J'ai jamais vu ça. OK? Je ne sais pas si vous voyez comment la roue, quand elle part, là. OK? Là, ils ont vu quelque chose. Là, ils ont eu peur. Puis là, ça part, là. OK? Il n'était pas extrêmement fort. Il était plus fort. OK? Le pays, là, il consomme, il mange le monde, le pays. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Au début, il y en avait quelques-uns d'Anak. Là, ce sont tous, tout le monde. Tout le monde est gros. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. Ils sont tous très grands. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme... Comme ça. Pensez-vous que le géant, il avait ma grandeur? Si je mets une sauterelle par terre, pensez-vous que le géant était grand comme moi? Oui? C'est pas dur à battre, vous me direz. OK. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Alors, non seulement on est gros comme ça à côté d'eux, mais finalement, on leur a parlé, puis ils nous ont dit que oui, on était des sauterelles à leurs yeux. C'est ça qu'ils disent. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Alors, je ne sais pas si vous voyez la progression de la peur ici. OK, la roue à part, là. La roue à part, puis là, on exagère les choses. Et ça, je pense que ça nous arrive une fois de temps en temps, sinon fréquemment. Quand on a peur, la réalité change. Parce que la peur nous tient captifs et on n'est plus du tout dans le repos. Parce que notre roue tourne. Alors, ça a entraîné la communauté. Ça a fait un mouvement et toute la communauté s'est soulevée et s'est mise à pousser des grands cris. Et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Okay? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ne pas dormir parce que vous avez peur de quelque chose. Moi, oui. Des fois, je ne trouve pas le sommeil parce qu'il y a quelque chose qui me trotte, puis ça m'énerve, puis ça m'inquiète. OK? Et là, tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Si seulement on était mort en Égypte, hein, mieux vaut mourir que de vivre ça. » OK? Alors là, c'est le bas, c'est la cave. Là, c'est la cave. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays pour nous y faire massacrer? Alors, la peur de mourir, mais aussi de perdre nos femmes, nos enfants, qui deviendront la proie de nos ennemis. Nous ferions vraiment peut-être mieux de retourner en Égypte. Nommons-nous un chef, retournons en Égypte. Mais Moïse et Aaron sont tombés face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie. Et là, Moïse et Aaron, eux, ont eu un geste, OK, de révolte. De révolte dans le sens qu'ils étaient choqués, ils étaient outrés, ils étaient blessés. Et ils faisaient partie, Josué et Caleb, ils avaient exploré le pays et là, ils déchirent leurs vêtements. Ça veut dire quoi dans ce temps-là quand on déchire les vêtements? Le deuil? L'indignation, c'est ça, l'indignation. Il y a une indignation profonde qui est là. Et on va voir pourquoi un peu plus tard. Alors, ils disent, les deux, ils disent, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera, il nous donnera ce pays. » Alors, il y en a que le « si ». OK, on se demande pourquoi c'est un « si l'Éternel nous est favorable ». Il y en a d'autres qui disent « puisque ». Mais en général, c'est le « si ». Ma compréhension pourquoi c'est un « si », ce n'est pas un manque de foi. Mais ils ont exploré le pays et ils n'ont pas encore reçu du Seigneur les instructions comment le faire. Alors, on attend les instructions avant de dire quand même « on y va » ou « on y va quand on y va aujourd'hui ». Alors, moi, c'est ma compréhension du « si ». OK? Seulement, ne vous révolte pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une. Ça ressemble à une sauterelle, ça. Hein? Ceux qui ont la foi, là, ceux qui ont confiance dans ce que Dieu demande, c'est eux qui voient les autres comme des sauterelles. OK? Ceux qui ont peur, ils se voient comme ça, puis ils voient l'ennemi ici, et ceux qui ont la foi, ils se voient comme ça, et l'ennemi ici. OK? La différence de la vision, quand on a peur, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Et il dit, on n'en fera qu'une bouchée, leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Pourquoi qu'il disait que l'ombre protectrice s'était éloignée d'eux? Qu'est-ce qui leur faisait dire ça? D'où ils arrivent? D'Égypte. Ils arrivent d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Quoi? L'esclavage. Oui. Les 10 plaies. Et qu'est-ce que ça disait les 10 plaies au peuple de Dieu? Que Dieu était plus fort que tous les autres dieux. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu 10 fois. Et finalement, ils ont traversé et rendu à une autre épreuve. Dieu a ouvert la mer. Hey, c'est pas des jokes, là. Non, mais si tu y penses, là, la mer s'ouvre puis tu passes, là. Vraiment, là. Je dis ça de même, là, mais il y en a dû qui devaient penser qu'ils n'avaient fumé du bon pour vivre ça, là. Vraiment, là. Non, mais tu sais... C'est incroyable là, ce qui se passe là. Alors, eux, OK, Josué et Caleb, ils savent à qui ils appartiennent. Ils se souviennent de leur Dieu. Dieu a fait plusieurs œuvres et il leur a montré qu'en faisant tout ça, il les avait à cœur et qu'il voulait les amener dans le sabbat parce que c'était ça l'idée d'aller dans le repos dans un nouveau pays, qu'ils ne soient plus esclaves. Alors, eux, ils se souviennent de l'œuvre de Dieu, comment Dieu en a pris soin, et ils savent que ce peuple-là n'a pas le Dieu d'Israël. Alors, ils savent que l'ombre protectrice n'est plus sur eux, qu'ils sont en marche vers une victoire. Ils sont en marche pour une victoire. Alors, je veux juste vous faire remarquer que le Seigneur ne donne pas nécessairement les choses facilement. Dieu peut te donner quelque chose, mais il va falloir que tu travailles pareil. Il va falloir que tu te battes pareil. va falloir que tu t'attaches à la parole. OK? Il y a un combat qui va être mené. Dieu veut t'amener là. Il veut te le donner. Il veut te le donner, ton diplôme. Mais il va falloir que tu travailles. OK? Et tu vas travailler avec Dieu. Alors, il se souvenait, Josué et Caleb, de ce que le Seigneur avait dit. Et c'est au tout début, dans Exode 6. Et ça, c'était quand Moïse s'était sauvé d'Égypte, puis qu'il était dans le désert, puis qu'il a vu le feu. L'Éternel avait dit, dès ce moment-là, la première fois que l'Éternel a parlé, il a dit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu le délivrer des Égyptiens pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. » C'est quoi les paroles qu'ils ont dit quand ils sont revenus? C'est un pays. C'est celui qu'habite, et là, il les renomme. Il renomme exactement ce que les éclaireurs ont vu. Alors, Moïse avait eu cette vision-là à son premier appel. Et c'est cette vision-là de son premier appel qui l'a tenu tout le temps, qui lui a donné le courage d'aller voir Pharaon à multiples reprises, que le peuple a eu connaissance, les sauterelles étaient à droite pour manger le pays, eux, ils étaient protégés, les mouches agaçaient tout le monde, eux, ils étaient protégés. Et finalement, le sang sur le linteau, tous les premiers-nés sont morts. Eux, ils ont été protégés. Ils ont goûté 10 fois plutôt qu'une la protection de Dieu qui annonçait qu'ils étaient pour aller dans un bon pays. Et au premier obstacle, ils disent, c'est trop, on ne veut rien savoir. En fait, ils avaient oublié qui était Dieu. Et c'est pour ça que Dieu était tellement fâché après eux. Et là, il les a retournés 40 ans dans le désert parce qu'ils avaient l'expérience de Dieu. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne se sont pas arrêtés pour parler avec Dieu. Tu sais ce que Dieu voulait dans le jardin? Qu'on parle avec lui, qu'on communique. Ils n'ont pas dit, ben, écoute Seigneur, OK, on comprend l'appel, mais là, le match, on ne sait pas quoi faire. Là, si tu ne donnes pas des instructions, on va se faire manger. Mais tu nous as dit qu'il fallait aller là. Comment qu'il faut qu'on procède, Seigneur? Le dialogue avec Dieu, la communication avec Dieu, là, ça apaise la peur, parce que Dieu donnerait des instructions, puisque c'était son plan. Il donnerait des instructions. Alors, il les renvoie dans le désert pendant 40 ans, et après 40 ans, alors, c'est ça, toute la communauté était révoltée, et regardez ce que Dieu dit, « Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance, alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires. » OK? Quand ça va mal, là, arrêtez-vous. Pensez à ce que Dieu a déjà fait pour vous. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Et ça donne du courage pour continuer. Si Dieu m'a soutenu, il va me soutenir encore. Si Dieu vous a surpris par sa bonté, il peut encore vous surprendre. Alors, quand Moïse va mourir, l'Éternel va appeler Josué, il va lui dire, « Bon, Moïse est parti, maintenant Josué, je t'appelle, c'est à ton tour. » Et lui donne le même programme. Il n'arrive pas par la même place, mais il lui donne le même terrain. OK? Fait que la stratégie guerrière, elle change un peu, mais c'est le même territoire à conquérir. Alors, je veux juste vous dire qu'on est rendu 40 ans plus tard. Admettons qu'il était très jeune, Josué, puis qu'il avait 20 ans. Pourtant, c'est un chef. 40 ans plus tard, ça lui fait quel âge? Avez-vous vu des joueurs de hockey à 60 ans sur la patinoire? Ça prend vraiment la foi pour continuer à s'entraîner, à rester en forme, en sachant que tu as eu une promesse et que Dieu va te la donner. Si Dieu t'a fait une promesse, garde ton cœur en forme. Garde ton cœur en forme dans la foi, parce qu'elle va s'accomplir, cette promesse-là. Et Josué, il s'est tenu en forme, spirituellement, d'après moi, physiquement aussi. Je ne sais pas s'il faisait des poids et haltères ou quoi, là, mais il s'est tenu en forme, et là, il reçoit le même territoire. Et là, Dieu va lui parler. OK. Chez nous, quand... je donne l'exemple de ma fille. Quand on se laisse le matin, je vais la reconduire au cégep parce que c'est sur ma route. Quand c'est une journée ordinaire, OK, ma mère, moi-même, elle me disait « Bonne journée, Hélène. » Mon mari me dit « Bonne journée, Hélène. Aie du plaisir. » OK. Mais quand tu pars inquiet, là, qu'est-ce que ta mère te dit? Fais attention. Elle te dit quoi? Sois prudente. Aie confiance. Hein? Moi, je disais à ma fille, aie confiance, aie pas peur. Ma mère me disait, je vais prier pour toi, le Seigneur est avec toi. C'est pas le même au revoir, OK? Quand tu as une petite journée facile, c'est bye, bonne journée, aie du plaisir. Quand tu es inquiet, c'est je vais prier pour toi, aie confiance, ça va bien aller, OK? J'aimerais juste que vous regardiez qu'est-ce que le Seigneur va dire à Josué, OK? Prenez vos mains, là, puis quand je vais le lire, comptez par doigt toutes les paroles d'encouragement qu'il dit. Je lis. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Prends courage. Tiens bon, car c'est moi qui fera entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite sans t'en écarter ni à droite, ni à gauche, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage, tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Combien de fois? Ben moi, je pense qu'il avait très peur. Pour que le Seigneur... pour que le Seigneur lui dise 16 fois ça, moi, je pense qu'il avait vraiment jasé avec le Seigneur. OK? Puis il a dit au Seigneur, écoute, là, tu me donnes un caoul, j'ai 60 ans, j'ai une gang en arrière de moi, j'ai un pays immense. Tu me le demandes, Seigneur, je vais y aller. Mais, as-tu quelque chose à me dire pour m'encourager? Moi, te le dire 16 fois. Moi, te le dire 16 fois. OK? Fait que comme ça, si tu as des grosses trouilles 16 fois, tu n'auras au moins en réserve pour toutes les fois. OK? Alors, moi, je pense que c'est pour ça que le Seigneur a dit ça. OK? Parce qu'il avait jasé ensemble. Puis le Seigneur, il aurait dit la même affaire au peuple si le peuple avait jasé avec lui. Parce que c'était leur appel. C'était leur appel. Alors, si tu as un appel et tu as la trouille, va jaser avec le Seigneur. Va jaser avec le Seigneur. Et il lui donne un autre conseil. Aie soin. Oups, bon, je vous l'avais dit, je n'étais pas bonne. Attends un petit peu. OK. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Qu'est-ce qu'il dit? Répéter. Garder, méditer la parole. Ça veut dire quoi, ça? Reste en contact avec moi. Reste en contact avec moi, avec qu'est-ce que je t'ai dit. Souviens-toi de qui je suis. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. C'est pas obéir d'une façon religieuse, droite, gauche, j'ai peur, fais pas ci, fais pas ça. C'est pas ça. C'est je t'ai donné des conseils. Je t'ai donné ma loi. On l'a vu avec Denis. OK? Je t'ai donné des conseils, je t'ai donné ma loi. Reste en contact avec mon cœur. Mon cœur qui veut prendre soin de la veuve, de l'opprimé, du pauvre. Reste en contact avec moi. C'est ça qu'il lui dit. OK? C'est ça la loi. La loi, c'est un conseil de vie pour le cœur. C'est ça la loi. Alors, c'est ce qu'il va faire et il va avoir du succès. Ils vont conquérir. Et regarde bien. Une fois qu'il a jasé avec le Seigneur de ses peurs, que le Seigneur l'a rassuré, il donne la stratégie Après, Josué donna au chef du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp, préparez des provisions. Il donne le plan de match après. Nous autres, on veut le plan de match avant. Dis-moi qu'est-ce que tu vas faire puis comment ça va marcher, puis je vais te le dire si ça va me calmer. Le Seigneur, il dit non. Viens me voir d'abord. Ouvre-moi ton cœur. Dépose tes craintes. Fais silence. Écoute ma voix. Lis ma parole. Je vais te donner le plan de match après. OK? Je vais te donner le plan de match après. Et j'aimerais vous montrer quelqu'un qui l'a vraiment mis en pratique. Et c'est Gédéon. J'aime beaucoup cet exemple-là. Gédéon, alors l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon, il est honnête. Il répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous ferait sortir d'Égypte? » Ça, c'est une vraie conversation. OK? C'est pas « Oh, tu m'appelles, oui, Seigneur, oui, oui, oui. » Non, non. Non. Il dit « Excuse, là. Excuse. C'est quoi qui se passe, là? Tu as dit que tu étais pour être avec nous, puis on est dans le chenoute, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Est-ce que l'Éternel est fâché de ça? Pantoute. OK? Et l'Éternel va répondre, va avec cette force que tu as et délivre Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur, avec qui, quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, puis moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Si c'est toi qui m'envoies, donne-moi un signe. Ça, c'est une vraie conversation. OK? Il y a un appel. Il n'a pas dit, je ne veux pas, qu'est-ce que tu me demandes, je ne veux rien savoir, c'est quoi ce Dieu-là qui me demande des affaires au-delà de mes forces? Il a dit non. Il dit, j'entends ce que tu me dis, Seigneur, mais je veux juste te dire où je suis. Et le Seigneur est d'accord, parce qu'il avait demandé à Adam et Ève, où es-tu? Le Seigneur, il veut savoir où vous êtes. C'est quoi vos questions? C'est quoi vos peurs? Où es-tu? Où es-tu? Et il a dit où il était et le Seigneur va lui faire un signe et tout ça. Et cette conversation-là, ce n'est pas une conversation de manque de foi. C'est une conversation de cœur à cœur. OK? Et je pense qu'il faut faire attention entre le manque de foi en qui est Dieu et d'ouvrir notre cœur à Dieu et dire où on est. OK? Il y a des choses dans la vie que je ne voulais pas faire. Travailler dans une maison funéraire, ce n'était pas sur ma liste en premier. Non, non. Mais le Seigneur m'a demandé de le faire quand je priais. J'ai dit au Seigneur, OK, si c'est toi, ouvre, montre-moi un signe. Le jour où j'ai donné mon nom, je suis sortie le soir avec la clé de la bâtisse dans les mains. J'étais engagée, j'avais la clé de la bâtisse dans les mains. Je dis, OK, Seigneur, c'est correct, je vais y aller. C'est correct. Mais c'est une conversation que tu peux avoir. Tu dis, Seigneur, si c'est là, j'ai quand même besoin d'encouragement. J'ai besoin d'être assurée parce que j'ai une bataille à livrer. Alors, si je veux la livrer jusqu'au bout, il faut que je sois sûre de ton appel. Il faut que je sois sûre de ton appel. Whoop-a-lay. Alors, moi, je pense qu'on revient là. Hein? Je touche à rien, Hélène. On repart. Alors, la stratégie, OK, c'est l'obéissance du cœur à sa parole. Le reste, la planification, ça vient après. Gédéon a fait la même chose. Il a ouvert son cœur, puis après, la parole lui a donné une stratégie. Personnellement, j'ai vécu une peur que le Seigneur m'a montrée le printemps passé. Mon mari voulait être disponible pour le Seigneur, puis il était cuisinier, Puis cuisinier, c'est toutes les fins de semaine, puis les soirs très tard. Puis il voulait être plus disponible pour l'Église. Alors, on a cherché devant le Seigneur, on a prié, on a consulté des amis, on a jeûné, puis on a demandé au Seigneur de nous diriger. La façon qu'il a dirigé, c'est qu'on a acheté un commerce. On a acheté un commerce et il a été en opération et pour une histoire trop longue à raconter, on a fait faillite. On a tout perdu. On a perdu 25 années de travail. C'est pas qu'on l'a eu 25 années, mais d'accumulation de notre vie, comment on construit notre vie pour la retraite. Et j'étais pas mal secouée. Et ça a donné dans la période où j'ai commencé à la maison funéraire. Puis, si vous voulez toujours avoir de l'emploi, là, c'est une bonne place à aller. Puis, là, je pourrais vous raconter ça avec plus de compassion, mais là, je fais ça léger, disons, OK? Je fais ça léger. Et j'avais l'occasion de travailler beaucoup, OK? 60 heures semaine, tout le temps. Avec François, on s'est entendu, on s'est backé. François a pris le relais à la maison, beaucoup plus et tout ça. Puis, une fois de temps en temps, je dis au Seigneur, « Seigneur, il me semble que je travaille pas mal, là, tu sais. 60 ans, oui, c'est à 60, oui. » Tu dis, « Ouais. » Ben, OK. C'était correct. Je savais que c'était beaucoup, mais c'était correct. Parce qu'il fallait rattraper du temps, OK? Puis le Seigneur me donnait l'occasion de le faire. Au printemps passé, je repose la question, « OK, c'est correct? » Et là, le Seigneur me dit, « Non. » Parce que maintenant, ta motivation, c'est la peur. Tu as peur de manquer, Hélène. Tu as peur d'arriver à ta retraite puis pas avoir assez. Ta motivation, ma fille, c'est la peur. Et ça, j'aime pas ça. Je suis pas d'accord. Ça te fait pas du bien. Puis là, ça fait pas du bien à ta famille. C'était correct un bout de temps, là, c'est non. Fait que, il y a des fois que le Seigneur nous demande des choses pour un temps, mais il y a un autre moment où il nous demande d'autres choses. Et il faut obéir. Alors, je suis dans la stratégie d'élaguer des affaires, d'en faire moins, d'essayer d'être plus disponible, de dire non, de déléguer. Là, je suis là-dedans. Et la peur est une mauvaise conseillère. Prenez pas des décisions sous la peur. C'est une mauvaise conseillère. La foi, la confiance, la voix de Dieu, la parole, la sagesse des frères et sœurs, la consultation est bonne conseillère, pas la peur. Dieu nous demande des fois d'obéir à des choses. J'admire beaucoup ma fille Rachel. Elle a décidé à son travail de ne pas travailler les fins de semaine. Elle dit, je vais travailler les soirs de semaine, deux soirs, pas plus. Mais elle a dit, j'ai besoin de mes fins de semaine pour me reposer puis pour étudier. Elle s'est faite taquiner, là. Pas juste taquiner, on va le dire écœurée. T'es pas solidaire, puis tu laisses la job à toutes les autres. Puis elle a tenu son bout. Elle dit, c'est ça que je peux donner. C'est ça que je vais donner. Alors, le Seigneur peut mettre des convictions dans votre cœur. Tenez votre bout. Tenez votre bout. Ma question ce soir, c'est où êtes-vous? Quelles sont vos peurs? Quelles peurs avez-vous? Et j'aimerais en nommer quelques-unes. Et après ça, on va aller avec Christa. Elle va nous conduire dans un moment qu'on appelle Lectio Divina, où la parole va nous interpeller et on va s'ouvrir à ce conseil de Dieu. Puis elle va nous conduire dans ce moment-là. Mais là, j'aimerais vous donner quelques questions. Alors pour vous, qu'est-ce qui vous fait des soucis, des inquiétudes? Qu'est-ce qui crée des fois l'anxiété? Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans le sabbat? D'être dans la marche, mais d'avoir un cœur, un esprit dans le sabbat. Est-ce que c'est vos notes, les notes de passage ou la cote R pour rentrer à l'université? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est ce cours qui est si difficile, mais qui est un prérequis pour prendre le prochain? Sinon, vous êtes en retard d'une session, d'un an. Est-ce que c'est ce cours où vous avez peur d'être calé? Est-ce que ce sont vos finances? Pas capable m'inscrire à l'université ou en maîtrise parce que je n'ai pas l'argent ou j'ai peur de m'endetter? Ou même peut-être payer mon loyer? Ou avec qui je vais rester l'an prochain? Qui va être avec moi l'an prochain? Est-ce que je vais avoir vraiment un ami? Ou je vais vivre avec des colocs que ça n'a pas de bon sens? Avez-vous peur pour votre profession? Avez-vous peur de ne pas avoir de travail dans ce dans quoi vous étudiez? Avez-vous peur d'étudier pour rien? Avez-vous peur de ne pas aimer ce travail-là? Ou de l'aimer puis de vous faire bouffer votre temps parce que vous savez que ça va être exigeant? Avez-vous peur pour votre santé? Avez-vous peur que tous les efforts que vous mettez, que des fois l'inquiétude que vous avez, ça va vous rendre malade, que vous allez faire un burn-out, que vous allez faire une dépression? Et ça même, ça vous gruge en dedans, parce que sur la ligne de la santé, vous ne savez plus où vous êtes rendu. Si vous êtes rendu sur le bord du précipice ou si vous avez encore de l'essence pour continuer à rouler un petit peu. Avez-vous peur de perdre des amis? Si vous leur dites telle chose, ou que si vous arrêtez de faire telle chose avec eux, ou si vous prenez une distance, avez-vous peur de perdre des amis? Avez-vous peur de ne pas avoir de conjoints, de conjointes qui connaissent le Seigneur? Ou peur parce que vous en avez une, puis vous n'êtes pas sûr d'où vous êtes rendu dans votre relation, puis vous ne savez pas si vous devez vous engager plus loin ou pas. Avez-vous peur d'être pauvre, de ne pas avoir de maison, d'avoir une vie ordinaire? Avez-vous peur de révéler un secret qui vous pèse, quelque chose que vous portez depuis des années, que vous n'avez jamais dit? Ça vous retient, vous n'osez pas le dire. Avez-vous peur? Avez-vous peur de décevoir Dieu, de lui désobéir, de ne pas entendre sa voix? Avez-vous peur de vous tromper? Quelle peur avez-vous? Je crois qu'on a toutes des peurs. Et que nos peurs, on doit venir devant le Seigneur. On a la mauvaise habitude, OK, que ce qui nous tracasse, OK, c'est comme une mouche, là, tourne autour, puis on fait juste comme ça, là, OK. À un moment donné, là, tu pognes, puis tu regardes. Puis tu dis, Seigneur, c'est de ça que j'ai peur. Il faut faire face à nos peurs. Sinon, nos peurs, elles sont toujours là. Elles nous grugent, elles nous prennent de l'énergie, elles nous font faire des mauvais choix.